Jean-Pierre Geneviève, inspecteur pédagogique de sciences physiques. Bon, plusieurs aspects dans nos fonctions concernant cet accompagnement. Donc, l'objectif général étant d'impulser la généralisation des usages, hein, si possible raisonner donc dans le domaine des technologies numériques. Contribuer à l'animation pédagogique, contribuer également à la réflexion, amener les équipes à intégrer dans leur pratique pédagogique la dimension technologie de l'information et de la communication. On a également pour objectif d'animer un réseau d'acteurs, hein, animer également des groupes de réflexion spécifiques, hein, les fameux groupes d'expérimentation pédagogique. Un autre aspect également de notre fonction, c'est d'exercer notre expertise dans le domaine de la didactique et en lien avec les usages numériques. La pertinence des TIS, ça touche avant tout déjà la pertinence pédagogique. Les TIS n'apportent pas de la pertinence pédagogique intrinsèquement, c'est bien la réflexion pédagogique que le professeur développe autour, hein, qui permettra des usages pertinents. Moi, ce qui me paraît important, c'est de bien se dire que les TIS ne sont qu'un nouveau support, hein, à prendre en compte et qu'il s'agit de les articuler avec des pratiques pédagogiques qui sont déjà bien établies, avec des plus-values qu'on a déjà bien identifiées. Alors, parmi les usages plus spécifiques, moi, je pourrais prendre deux exemples. Premier exemple, on a donc des dispositifs d'expérimentation assistée par ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir coupler ces travaux d'expérimentation par ordinateur avec une logique de réseau, de mutualisation, et le professeur joue le rôle de médiateur donc dans cette utilisation. Le deuxième aspect qui me paraît très spécifique également, et qui est en lien d'ailleurs avec la didactique de la discipline, on est également une discipline qui va de l'observation à la modélisation. Prenons l'exemple d'une expérience d'électricité qui est réalisée dans la classe, et l'objectif du professeur étant d'amener les élèves à comprendre qu'il y a des codes de communication spécifiques, hein, qu'on appelle des symboles normalisés. Et j'ai déjà vu des activités qui me paraissaient très intéressantes, qui consistaient à photographier l'expérience réalisée par les élèves, et puis par jeu de transparents numériques successifs, passer de ce que les élèves voient sur la table, en travaillant bien sur les obstacles aux apprentissages, en travaillant bien sur les leviers que l'on peut mettre en œuvre, et bien utiliser le tableau numérique interactif de manière à obtenir le schéma normalisé, et ceci pas à pas. Alors les ENT, de mon point de vue, modifient le rapport entre le professeur, la classe et le temps. Alors quand je parle du temps, c'est le temps inscrit dans l'emploi du temps des élèves, le temps scolaire, et puis le temps toujours scolaire, mais en dehors de l'emploi du temps traditionnel de l'élève. Je pense notamment au dispositif d'accompagnement de manière générale, éducatif, personnalisé. Et puis également, peut-être un nouveau rapport avec le travail personnel de l'élève. Et les premiers usages que l'on voit, notamment autour du cahier de texte numérique, hein, avec une volonté pour les professeurs les plus avancés de faire vivre ce cahier de texte de manière interactive, en rajoutant des liens. Et puis également, ce besoin de mutualisation de ressources qui devient de plus en plus important. On peut citer l'exemple de la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences, où l'on voit bien qu'il y a une demande d'espace partagé pour pouvoir mutualiser des ressources. Je pense notamment au suivi des acquis des élèves, ou alors aux futures plateformes de validation du socle. Donc là, on sera bien dans un espace ENT, mais cette fois-ci utilisé par les pédagogues. Donc moi, j'y vois deux avantages, hein. Une relation nouvelle, je dirais, à l'élève, au travail personnalisé, et puis également un besoin de mutualisation de ressources entre pédagogues. Et je pense que l'espace numérique de travail nous permettra d'avancer singulièrement sur ce registre. Moi, je m'interroge également sur le temps de parole donné à l'élève. On sait que dans une classe, il est limité. On a des expérimentations assez intéressantes, notamment hein, de baladodiffusion, ponctuelles à l'heure actuelle, mais assez intéressantes, qui montrent que l'on peut augmenter le temps de parole de l'élève, et puis permettre à l'élève de sortir de cette inhibition qui consiste à s'exprimer devant la classe. On a également des expérimentations de blogs, hein, qui constituent des banques de ressources, hein, pour analyser le geste expérimental, par exemple. Alors, ça rejoint d'ailleurs un axe de réflexion de notre groupe sciences physiques, notamment du groupe d'expérimentation pédagogique, qui travaille sur des ressources que les élèves sont susceptibles de pouvoir mobiliser en autonomie. Par exemple, en présence du professeur dans la classe, mais également l'autonomie en dehors de la classe. Alors ça montre bien que l'usage des TIS requiert une posture nouvelle de l'enseignant, qui vient finalement plus en tant que médiateur, un peu comme on le voit se développer par exemple dans des activités de type travaux personnels encadrés, où la posture du professeur est différente. Elle a d'ailleurs interpellé au début, hein, lorsque ce type d'activité s'est mise en place, et puis on s'est aperçu finalement que le professeur a fini par trouver sa place dans ce type d'activité, où il a une position moins centrale. Donc on est plus dans de l'accompagnement finalement, comportement, de la méthodologie. Et je parlais notamment d'un professeur qui devient un médiateur, hein, plus que l'unique détenteur du savoir. C'est vrai qu'on a également un rapport nouveau, hein, une relation nouvelle entre l'élève et le savoir, puisque en quelques clics, finalement, on accède à un nombre de ressources incommensurables. Et c'est au professeur d'éduquer l'élève à l'usage de ces nouveaux médias, éducation par rapport à la propriété intellectuelle, éducation par rapport au droit à l'image. Donc on sort un peu du contexte strictement disciplinaire, mais il n'empêche que chacun des professeurs, dans sa discipline, peut favoriser également l'autonomie des élèves, et on s'aperçoit bien qu'on a des nouveaux comportements scolaires qui nous déroutent à l'heure actuelle, et on ose espérer que les technologies nouvelles peuvent être une façon d'accompagner l'élève de manière différente dans sa scolarité, dans son travail personnel. Alors avant de préparer une séquence, je crois que le professeur, qu'il utilise ou non l'ETIS, doit d'abord identifier des objectifs d'apprentissage, et puis après travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur la didactique de la discipline. Alors ce qui me paraît important en matière d'ETIS, et c'est parfois également quelques écueils que l'on voit dans la classe, et c'est le fait d'oublier finalement que ces ETIS permettent de sortir d'une approche linéaire, je dirais, du cours, avec la possibilité notamment d'activer des liens hypertextes qui permettent de naviguer d'une ressource à l'autre. Donc il y a bien un travail en amont qui est à faire par le professeur, de choix de ressources pertinentes. Un des écueils à éviter, notamment, c'est cet usage peut-être maintenant un peu trop systématique du diaporama de cours, par exemple. On n'intègre pas suffisamment la dimension interactive, je dirais, que peut faire mettre l'ETIS, parce que l'on travaille excessivement dans le linéaire, sans pouvoir intégrer la participation des élèves et notamment leurs idées. Je pense qu'on a quand même un certain nombre de signes qui nous montrent qu'on est dans une dynamique de généralisation. Alors la première chose, c'est qu'en sciences physiques, on est quand même une discipline, comme je disais, expérimentale, dans laquelle l'expérimentation assistée par ordinateur donc, a été mise en place assez tôt, hein, avec une généralisation qui date des années déjà 99 ou 2000, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Donc on a quand même maintenant une génération de professeurs qui a su s'approprier ces différentes technologies de l'information et de la communication. Après, il s'agit de s'approprier donc des nouveaux matériels, hein, on voit bien maintenant la baladodiffusion, le tableau numérique interactif, les espaces numériques de travail. Le témoignage que l'on peut avoir, c'est également la forte demande en formation. On propose évidemment dans les plans académiques, hein, des formations à destination de l'usage des TIS, et on voit bien que la demande est très forte. Je crois que c'est un signe très, très encourageant. Ce qui me paraît également très, très positif, c'est la logique collective que l'usage des TIS peut engendrer. On voit par exemple, hein, autour de la mise en œuvre du SOC, la réflexion commune qui s'organise sur la place des TIS, quelles contributions les TIS peuvent avoir pour le professeur, également pour l'élève. Tout cela bien contribue à l'essor des TIS, et je pense qu'on a des professeurs de sciences physiques qui sont très ouverts à ces nouvelles pratiques. La révolution copernicienne, on en parlait tout à l'heure, à savoir posture nouvelle de l'enseignant, hein, ça va de soi. Posture nouvelle de l'enseignant, besoin également d'occuper des nouveaux espaces pédagogiques, mais qui correspondent également à des espaces de communication de nos élèves. Donc il s'agit d'avoir à l'esprit tout de même cette exposition que les élèves ont au numérique dans leur vie de tous les jours, et puis de pouvoir s'accaparer ces espaces nouveaux pour s'en servir comme vecteur de communication d'une part, et puis aussi pour pouvoir en extraire les usages les plus pertinents qui apporteront, alors je n'aime pas tellement parler de plus-value, mais enfin qui apporteront des apports réels, hein, d'où la réflexion didactique en amont dont je parlais. D'autres aspects également, hein, c'est la dématérialisation des ressources qui permettent également le partage. Alors dématérialisation, on peut prendre l'exemple des livrets d'évaluation, hein, qui sans doute sortiront plutôt dans un format dématérialisé. Et puis, comme je le disais tout à l'heure également, c'est la posture nouvelle de l'enseignant avec un élève qui a entre guillemets un égal accès à la ressource et à la connaissance. Et pour que cette ressource soit exploitée pour pouvoir construire des connaissances et des compétences, eh bien, on voit bien que le professeur, là, aura toujours sa part d'ouvrage à faire. Moi, j'ai tendance à dire que pendant longtemps, on s'est interrogé sur les plus-values des usages des TIS, et moi, j'aurais tendance plutôt à déplacer l'interrogation et d'amener les professeurs à s'interroger sur la moins-value que l'on ferait à ne pas les prendre en compte.